Conciliante, sí. Évidemment, ça soulève des questions, une question, des questions sur le sens de la vie, sur ce qui est après la vie. Et normalement, c'est un moment où les gens, ils ont la coutume de sortir du train de tous les jours, des réflexions dans lesquelles on vit tous les jours. On est confronté à une situation qui naturellement nous oblige à approfondir le sens de toute la vie. Comme ça, c'est la nature humaine, sauf si quelqu'un il est vraiment aveugle et il veut bloquer toute réflexion. Dans ce cas-là, il peut continuer sa vie comme rien n'était. Mais la nature veut que les gens ne sont pas comme ça. La nature humaine, elle est faite que quand des événements qui remettent en question le fondement de l'existence, comme si quelqu'un il est malade, le jour que quelqu'un il va chez le médecin et le médecin va lui annoncer qu'il a une maladie qui n'est pas sympathique et qu'il ne sait pas s'il va survivre, à ce moment-là, les gens commencent à réfléchir plus profondément sur leur propre vie, sur la vie tout court, sur le monde tout court, sur le sens du monde. Et c'est bien comme ça. C'est bien que les gens y réfléchissent. C'est ça qui fait la différence entre l'animal et l'être humain. Comme ça, si bien d'après la nature, évidemment, comme ça est écrit dans la Torah aussi. Et bien sûr, la première question qui arrive aux gens, c'est que quel est donc le sens de cette vie? On est jeune, après on est au milieu de la vie, et après on arrive au troisième âge, et toute la vie, on devient normalement un peu plus intelligent. Chaque année, on est un peu plus intelligent. On comprend un peu mieux les choses. Et une fois qu'on arrive à 60, 70 ans, on est vraiment intelligent, alors le corps commence à lâcher. Et après, on a 80, on n'a pas 90 ans. Ah, ça y est, maintenant je suis intelligent, maintenant je veux commencer ma vie. Mais il faut déjà se préparer à partir. Les mains et les pieds, et la tête, et le cœur et les reins et l'estomac, etc., etc. Un membre après l'autre membre commence à avoir des pannes. Mais attends, maintenant que je suis intelligent, je me suis battu toute ma vie pour comprendre quelque chose. Ça y est, maintenant, et alors? Si ça avait été le contraire, au début de la vie, on est fatigué, et après, au fur et à mesure, on devient en bonne santé, ça a un sens. Plus on est intelligent, plus le corps, après, il est fatigué. Ça, bien sûr, c'est tout à fait normal que l'homme, il aboutit alors à la pensée qu'enfin, ce n'est pas cette vie-là qui est l'aboutissement. Que l'aboutissement, c'est autre chose. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater. La vie est bien sûr est là pour préparer quelque chose. Et celui qui ne veut pas prendre cette réflexion en compte, pour soi-même, il a l'intérêt de le prendre déjà en compte quand il voit ses parents. Étant donné que normalement les parents ils sont plus âgés que les enfants, comme ça c'est la nature. Les parents ils partent plus tôt. Donc quand l'homme il est au milieu de la vie, où, bon, les parents ils sont âgés, un jour ils partent. Donc là, on se réfléchit, moi aussi un jour, on n'est pas pressé, mais un jour c'est inéluctable. Donc ce Moussar Haskel, cette leçon, cet enseignement, on peut apprendre quand les parents ils quittent le monde. C'est pour ça qu'on dit Kaddish, en effet, pour que les enfants ils prennent conscience la leçon qu'on a donnée à ton père, à ta mère, ou ça c'est prends le toi, si tu as encore 2, 3, 20, 30, 40 années avant devant toi, alors vis déjà maintenant, pas comme un aveugle. Alors, cette histoire de réfléchir, qu'est-ce qu'il y a après, à la fin, c'est primordial. Je vais citer ici un passage qu'on a fait hier. Hier, vous étiez à la Tefila. On a fait quel parasha? Parashat Vayelech. Elle finit comment, cette parasha? La parasha Vayelech, Moshe Rabbeinu l'a dit le dernier jour de sa vie. Aujourd'hui, j'ai 120 ans. Il dit aux Juifs, je vais vous dire au revoir. Et avant de dire au revoir au peuple juif, il a fait une chanson. Il a chanté une chanson, une shira, un hymne national du peuple juif. Et il a dit à tous les Juifs d'écrire cet hymne. Kitvu lachem et shira azot velamda et bnei Israël sima bepiem. Que chaque Juif ait écrit cet hymne et qu'il apprend par cœur sima bepiem. Afin que ce chanson sera comme témoin pour le peuple juif. Cet hymne, chaque juif doit connaître par cœur. Elle est écrit où cet hymne? On va la lire la semaine prochaine, c'est Parashat Ha'azinu. La Shira, le chanson de Ha'azinu. Alors le texte, Parashat qu'on a fait hier, on a terminé. Vaidaber Moshe Bozne Kolkal Israël Divri Ha'Shira Azot At Tumam. Et Moshe parlait dans les oreilles de tout le peuple juif les paroles de ce chanson « At Tumam » jusqu'à leur terminaison, à sa terminaison. Il a parlé à tous les juifs jusqu'à la terminaison, jusqu'au dernier mot de ce chanson. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner avec le mot « At Tumam » ? Évidemment, ça suffit que la Torah me dit. Et Moshe, il a chanté ce chanson devant tous les juifs. Oui, bien sûr. Pourquoi il chanterait que la moitié, pas tout? La Torah nous dit, non. Sachez qu'il a fini jusqu'au bout de, aux yeux de tous les juifs. Il n'y a pas un juif qui est sorti au milieu du chanson. Il n'y a pas un juif qui est sorti après trois quarts de cet hymne. Tous les juifs étaient présents jusqu'à Moshe, il a fini le dernier verset. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Alors, on va essayer de voir un petit peu de quoi est composé cet hymne. La Shira de Ha'azinu. C'est l'histoire du peuple juif du début jusqu'à la fin. Concentré, tous les événements que le peuple juif va passer après la mort de Moshe. Moshe Rabbeinu dit aux juifs, moi je vais vous quitter. Après ma mort, vous allez prendre possession d'Eretz Israël. Et vous allez construire un pays. Et tout, il sera beau. Et vous allez être riche. Et sera merveilleux. Et lentement, je sais malheureusement ce qui va arriver. Vous allez doucement abandonner la Torah. Et à Kadesh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à vous embêter. Alors Moshe Rabbeinu, il raconte tous les embêtements que le peuple juif passera. Des petits embêtements, et des plus grands, et des plus grands, et des immenses, et des géantes. Des catastrophes sur des catastrophes. On peut se poser la question, pourquoi elle s'appelle un chanson? Il fallait appeler ça une lamentation. une oraison funèbre, des pleurs. La shira, shirat ha'azino, le chanson d'ha'azino. Ça, c'est un chanson. C'est-à-dire quoi, ça? Seulement, tout est bien qui finit bien. On finit à la fin d'ha'azino, après toute la catastrophe qui passe, qui risque de passer sur le peuple juif, comme Moshe Rabbeinu l'a annoncé. Le dernier verset, Harninu Goyimamo, Kidam Avadav Yikom, Menakam Yeshiv le Tsarav, Vechiper Admato Amo. Harninu Goyimamo, les nations qui ont embêté le peuple juif, qui ont persécuté le peuple juif pendant des millénaires, Harninu, ils vont commencer à chanter Amo, la louange de son peuple. Le Goy, ils vont chanter, mais quel peuple fidèle! Mais quel peuple extraordinaire! Mais comment nous sommes passés à côté de la plaque en regardant sur ce peuple? Harnino Goyimamo, nous on a cru que ce peuple était infidèle à son Dieu, et ce peuple était fidèle. Mais le peuple juif depuis longtemps aurait pu claquer la porte. Mais les juifs, ils auraient pu dire depuis longtemps, on est juif, on est embêté. Ça y est, on arrête d'être juif. On n'a qu'à partir en Argentine, on n'a qu'à se mêler avec les autochtones en Chili, au Brésil, on n'a qu'à partir en Amazonie, on est à Goyim. Depuis longtemps, ils seraient échappés. Le peuple juif ne dit pas comme ça. On est juif. On est juif. Et à Kadesh Baruch Hu, il fait ce qu'il veut avec nous. Un juif, il marche dans la rue à Paris. Oui, c'est vrai. Peut-être ça ne plaît pas à tout le monde. Et on a nos synagogues, et on mange kasher, et on a notre loulav et tefiline, contre vent et marée. Mais vous êtes en danger de mort. Akadesh Baruch Hu nous a demandé. Ça, c'est la Akedah. Rosh Hashanah, on a lu la Akedah. Akadesh Baruch Hu dit, Avraham Avinu, tu prendras ton fils, et tu vas l'égorger. Et Avraham Avinu, il prend du bois, il prend du feu, il prend un âne, il prend un couteau, il se met en voyage. Et son fils Yitzhak, il dit, papa, il y a quelque chose qui me... Je vois le couteau. Je vois le couteau, je vois le feu, je vois le bois, mais je ne vois pas de mouton. Tu veux faire un sacrifice, mais où est le mouton? Et Avraham Avinu, il répond. Elohim mirelo hasel ola beni. Dieu lui montrera le mouton pour le ola, mon fils. Voyez le chouchnem yachdav et les deux marchaient ensemble. Qu'est-ce qu'Abraham il a répondu? Dieu lui montrera lui, ça veut dire lui-même. Il va me montrer le mouton comme ola, mon fils. Pourquoi Abraham il ajoute mon fils? Mais je sais que je suis ton fils. Tu vas me dire aujourd'hui que je suis ton fils, je le sais depuis que je suis né que je suis ton fils. C'est parce qu'il faut mettre deux points. Dieu va lui montrer le mouton comme Ola. Deux points, mon fils. S'il n'y a pas de mouton, eh bien c'est mon fils qui est le mouton. À ce moment-là, Yitzhak il a dit, je ne joue plus. Ça y est, attends. Moi je suis ton mouton? Quoi, le grand couteau là, c'est quick? C'est pour moi. Au revoir, papa. Ça va pas? Je ne vais pas me laisser tuer. T'es fatigué, papa? Moi, je pars. Moi, je ne me laisse pas égorger. Ah non, pas de question. Je croyais que tu veux faire un corbanola. Moi? Ah non, je ne joue plus. Et la Torah nous dit, va-y-l'chou, shenem yachdav. Je te fais confiance. Papa, je sais qui tu es prophète. Tu es un homme saint. Dieu t'a demandé de faire ce corban. Je croyais qu'il s'agit d'un mouton. Il s'agit de moi. Je te fais confiance que c'est ça que Dieu il t'a dit. Eh bien, je vais aller avec toi. Ça, ce que Yitzhak Avinu il a fait, tous les juifs, ils ont toujours fait. Mais tous les juifs, ils savent le fait que nous sommes juifs. Il y a toujours un couteau quelque part. Il y a toujours des gens qui aiguisent un couteau. Ah, un couteau, deux couteaux, il y en a des couteaux dans le monde. Il y a beaucoup de couteaux dans le monde. On peut se cacher. Ça y est. On se fait passer pour un goy. Va passer pour un goy, ça va. On va partir à Tombouctou. Non, pas au Tombouctou. On reste à Boulogne, à la synagogue, le Rosh Hashanah, et le Kippour, et le Soukhot. Oui, on est juif. Oui, on est juif. Mais vous êtes en danger. Si c'est Akadosh Baruch Hu, il a voulu que nous sommes des juifs. Eh bien, en fait, tous les jours, on fait ce que Yitzhak Avinu, il a fait. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, après, il a dit à Abraham, tu ne touches pas ton fils. Baruch Hu, il va le dire sur nous aussi. Baruch Hashem, qu'aucun juif ne sera touché. Mais on ne va pas échapper à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Mais pour revenir un petit peu à ce chanson termine Tarnino Goyim Amo Kidam Avada Vikom. Les nations vont chanter le louange du peuple juif Kidam Avadav Yikom. Car le sang de ses serviteurs, Dieu va venger. Ce qui a été fait au peuple juif. Et que tellement beaucoup des juifs et des non-juifs ont cru, c'est normal. Et c'est une injustice. Les juifs y croyaient, mais c'est injuste. Et les goyim y croyaient, bien fait pour eux. Viendra un moment, hop. Dame Avada Vikom. Il faut bien comprendre quelque chose de très profond. L'histoire du peuple juif peut apparaître aux gens comme un zigzag où le patron aurait perdu le contrôle sur sa voiture. Des fois, il y en a quelqu'un qui roule en voiture et le conducteur, il perd le contrôle et la voiture fait n'importe quoi. Des fois, il arrive au peuple juif à gauche et à droite. Et au... Mais on est zone de turbulence, comme ils disent dans l'avion. Attachez-vous. On peut penser que le pilote, il tient pas bien les... Il n'a pas l'appareil en main. La Torah nous dit non, ça n'est pas comme ça. D'ailleurs, on a fait la semaine dernière, il y a deux semaines, on a fait dans Parshat Nitzavim quelque chose de très extraordinaire. Dans Parshat Kitavo, la Torah dit que si jamais le peuple juif, ce shalom ne se comporte pas bien, il y a toutes sortes de malédictions. On a 98 malédictions. Sur ces 98 malédictions, ils ne sont pas obligés d'arriver, mais ils risquent d'arriver. La Torah dit, après que les 98 malédictions sont passées, le texte dit, quand va passer sur toi, peuple juif, tous ces événements, la bénédiction et la malédiction, toi, tu vas réfléchir sur le sens de ton histoire. Et tu vas faire teshuva. Tu vas commencer à faire teshuva. Et Dieu va commencer à te ramener dans ton pays qu'il a juré à tes parents. Après le texte, il dit, tu vas faire encore un morceau de teshuva. Après, Umal Hashem Elokecha et Levofra et Levavzarecha. Dieu va circoncire ton cœur. Lahavat Hashem, tu vas commencer à aimer Hashem. Après le texte, il dit, Venatan Hashem Elokecha et Kol Ha'alot Ha'ele, Aloivecha Val Sonecha Asher Adafucha. Dieu mettra toutes les malédictions que toi tu as subies, il les mettra sur tes ennemis qui t'ont persécuté. Va ta tchouv, et quand tu verras ça, tu vas encore une fois faire tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu mettra les malédictions que le peuple juif a subies sur ceux qui t'ont persécuté? Mais qui nous a persécutés? Le texte dit, oivecha vesonecha, de oivim et de sonim. Le Ramban, quand il a parlé avec le roi d'Espagne, au XIIIe siècle, il est dit, monsieur le roi, les oivim et les sonim, il s'agit Et ces deux groupes qui nous ont persécutés le pire, il a dit ça au XIIIe siècle, le roi, c'est le chrétien et le musulman. La Torah parle de vous. Comme ça, le Ramban lui a dit dans la figure. Pas en grand public, il a dit en public, je ne peux pas vous interpréter ce verset. En privé, il lui a dit ça. Il y a quelque chose de bizarre. Quelle est la dernière des malédictions que le peuple juif devait subir? Quelle est la dernière? Le dernier de Parshat Kitavo. והשיב חשם באוניות מצרים, בדרך השם הרשם לא תוסיפו לראות עוד, והתמרקרתם שם לעבדים ולשפחות ואין קונה. On va vous tasser dans des bateaux. On va vous mettre sur la Méditerranée. Vous allez essayer de vous faire vendre, de vous faire acheter, et personne veut de vous. Comme ça dit le texte. Flavius raconte, quand il y avait la destruction du Beth Mikdash il y a 2000 ans, les Romains, ils ont pris les Juifs, ils les ont fourrés dans des bateaux, et on les a fait voyager. Et où les Juifs sont arrivés, ils ont demandé au port, acceptez-nous, laissez-nous monter. Et on ne voulait pas d'eux. Et beaucoup de bateaux ils se sont noyés. Personne ne voulait des Juifs. Ça, c'était il y a 2000 ans. Mais on n'a pas besoin de retourner 2000 ans. Ça suffit de retourner 70 ans. Dans l'année 1940, et 42, et 44, et 46, et 47... Combien des bateaux sont venus avec des Juifs qui ont fui l'Europe? Personne en Europe, ils voulaient des Juifs. Et les Juifs, ils sont montés en Palestine. Et nos frères, les Anglais, ils ont dit, niette, on ne veut pas de vous. Pourquoi on ne veut pas de nous? Eh bien, nos chers cousins ne veulent pas qu'il y en a trop de Juifs en Palestine. Et alors, où voulez-vous? Eh bien, vous pouvez vous noyer dans la mer. Vous pouvez retourner où vous voulez. On a renvoyé les bateaux. Vous connaissez tous, tout le monde connaît l'histoire. Et combien de bateaux ils ont coulé? Et à quelques mois, il y a un grand Rav à Bnei Brak qui est Niftar. Il s'appelait Rav Wozner. Sûrement vous avez entendu, sinon vous l'avez entendu aujourd'hui. Il y a 102 ans, il avait connu Niftar. Il y a Pesach et Niftar. En 1940, il est venu en Eretz. Il était sur un bateau. Il y avait 600 juifs sur le bateau. Il est venu par la Roumanie. Quoi. Et il y avait 600 juifs sur le bateau. Et les Anglais, non, ils ont pêché. Et le capitaine, il tournait pendant 40 jours. Et après, il n'y avait personne pour les deux. Après, il a dit, bon, maintenant, j'en ai plus d'essence, plus de pétrole. Il s'est mis à 2 kilomètres du bord. Il a dit, moi, ça s'arrête ici. Ceux qui veulent, qu'ils se jettent dans l'eau et qu'ils nagent. Moi, je ne peux pas faire plus. C'est probablement le petit bateau de trucs, il y avait place pour 5 personnes, peut-être le capitaine. Bon. Alors, à Wozner, il sautait dans l'eau et sa femme aussi. Ils ont nagé 2 kilomètres. 16 personnes ont survécu de ces 600. 16 personnes. Parmi eux, c'était lui. Lui et sa femme, les deux, ils ont survécu. Il a raconté quand il a nagé comme ça, et plusieurs fois, il a fait vidéo, il a dit, ça y est, je coule, j'en peux plus. Ça y est, c'est vrai quoi, je peux plus. Et il est arrivé vivant. Mais beaucoup de bateaux étaient comme ça. Ce que la Torah a raconté, tu seras sur des bateaux, personne veut de toi, et bien c'est arrivé au peuple juif. Et tout de suite, c'est la dernière des 98 bénédictions. Et après le texte, il dit, et Dieu, il t'amène en Eretz Israël. Et tu vas commencer à faire tes chouvas. Et les malédictions qui sont arrivées à toi, Dieu va les mettre sur ceux qui t'ont persécuté. À l'époque, nos chers cousins, ils ont dit, pourquoi les juifs, ils ont besoin d'État? Ils n'ont pas besoin d'État. Ils ont tourné depuis 2000 ans en Europe sans État. Ils n'ont qu'à continuer. Ils n'ont pas besoin d'État. Ils n'ont qu'à retourner en Allemagne, comme ils disaient. Ils n'ont qu'à retourner en Allemagne. Mais ces paroles sont enregistrées quelque part. Quand on est méchant, injustement, quand on condamne un peuple pour être obligé d'errer dans le monde, quand on refoule les bateaux et qu'ils coulent, on s'en fiche. La Méditerranée n'a qu'à être votre cimetière. Ces paroles, ces volontés, ces gestes sont filmés, sont enregistrés. Et ils rentrent dans un ordinateur que Dieu est là. Cet ordinateur s'appelle Venatan Hashem Elokecha et Kol Ha'alot Ha'ele Aloivecha Valsonecha Sheradefucha. Et Dieu mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis, ceux qui te détestent, ceux qui t'ont persécuté. Les Juifs n'ont pas besoin d'État. Ceux qui ont dit ça, peut-être eux n'ont plus besoin d'État. Ils n'ont qu'à retourner en Allemagne. Peut-être ceux qui vont retourner en Allemagne. Les Allemands, ils n'en voulaient pas les Juifs, les gentils. Bon, Dieu leur donne maintenant. Vous n'avez pas voulu les gentils. Eh bien, vous allez avoir. Vous allez voir ce que vous avez acheté comme marchandise. Ils prennent le bateau, personne veut d'eux. Et ils coulent. Pourquoi? Rappelez-vous. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé il y a 70 ans. Chaque chose a quelque chose au calcul. Arnino Goyim Amo, le pasouk, il dit, les nations vont chanter les louanges du peuple juif, qui dame avadav yikom, venakam yashib le tsaro, vechiper admato amo, et Dieu va se mettre en bon terme avec les juifs à la fin. Il y a 3 semaines, j'étais en Eretz. Et j'ai visité une famille qui était une famille sarcelloise, qui habitait à Yerushalayim. J'étais là-bas à discuter un peu. Alors, il y a un garçon de 14 ans, il vient. Alors, le père, il me dit, ouais, mon garçon-là, de 14 ans, il est un peu, en ce moment, un peu occupé avec sa tête. Ah, il est occupé de quoi? Il y a une question qui le tracasse. Ah bon? Quelle question le tracasse? Et pourquoi Dieu déteste le peuple juif? Ah bon? Dieu déteste le peuple juif? Oui, parce qu'il a lu toute l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Bah, si c'est arrivé, c'est Dieu, il déteste bien le peuple juif. Alors, je citais avant le texte. Qu'est-ce qu'il dit, les textes, hier? Et Moshe Rabbeinu a chanté devant les oreilles de tout le peuple juif ce chanson, Ad Toumam, jusqu'à sa terminaison. Aucun juif, il est sorti au milieu de l'histoire. J'aurais pu croire, quand les juifs, ils entendent Moshe Rabbeinu chanter, et les juifs vont être massacrés, et le poison des serpents. Les juifs disent, ça y est, on en a marre. Ouh là là, là, ça y est, j'en peux plus. Et chaque version, encore et encore et encore. Chaque verset, c'est un siècle. Ça y est, je mets des bouchons. Je pars, j'en peux plus. Le passage qu'il dit, tous les juifs, ils ont resté. Moshe Rabbeinu, il a chanté. Tout le monde a écouté. Si Moshe Rabbeinu chante, c'est, il ne faut pas quitter au milieu. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Parce que tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. C'est pas si important comment une histoire commence. Ce n'est pas si important comment une histoire elle se passe. Ce qui est important, comment elle finit. Si elle finit bien, elle est bien. Quelqu'un qui voit un film d'horreur, si ça finit avec des horreurs, mieux vaut quitter au milieu. Mais si à la fin, tout il se renverse, et si tu croyais que c'est de l'horreur, c'était tout était bien. C'est un calcul, tu vas te réveiller à la fin. Mais c'est beaucoup mieux que je me suis imaginé. Mais c'est phénoménal. Il ne faut surtout pas sortir au milieu. Vous connaissez cette histoire-là? On raconte, il y avait une fois un goy mendiant, SDF, le pauvre, il n'avait pas quoi manger. Il rencontre un copain juif qui est aussi mendiant, aussi SDF. C'est la veille de Pessah. Et le gars, il dit, oh, juif, j'en peux plus, ça fait 48 heures, je n'ai pas mangé, je crève de faim, trouve-moi, qu'est-ce que je fais, je vais mourir de faim. Les juifs disent, moi aussi, ça fait 48 heures que je n'ai pas mangé, mais ça tombe bien, ce soir, il y a une fête chez les juifs. Ils invitent tout le monde, on peut manger chez eux, ils te donnent à manger, c'est le paradis ce soir. Ah bon, oui, mais moi, je ne suis pas juif. C'est pas grave, tu viens avec moi, je vais te faire passer, tu fais comme moi, tu fais le truc, ils vont croire, t'es juif, ça va passer comme un lettre à la poste. Alors viens, on y va, chez qui on y va? Attends, pas tout de suite, je suis pas encore invité, il faut aller à la synagogue, là-bas ils invitent. Bon d'accord, il va à la synagogue. Ils font mincha, arvit, le type il comprend, il dit j'ai faim, où on mange déjà? Il dit attends, on finit arvit, et après on chante Hallel. Et après, on fait Adon Olam. Après, on fait le Kaddish. Et après, on se souhaite. On fait... Et l'autre, il crève. Doucement. Après, ils vont à la porte et les gens, ils sortent. Ils disent, vous mangez chez qui? Ah, je ne sais pas qui. Bon, je vous invite. J'ai un copain, il peut aussi... Oui, voilà, mais ton copain aussi. Ah, au fond, on est sauvés. Ils arrivent à la maison. Nous, alors, qu'est-ce qu'on mange? Je ne peux plus. Alors, il y a une grande coupe de vin. Qui est douce. Hein, une grande coupe de vin. Il dit, c'est quoi ça? C'est du vin. Vin, moi, je ne supporte pas le vin. Je ne peux pas boire du vin. Si tu ne bois pas, ils vont voir que tu es goy. Tu fais semblant comme moi. Tu fais la même chose que moi. Ah, il commence à boire la kidouche. Il commence à boire. Ça lui fait mal. Oh, il est fou. Qu'est-ce qu'il veut m'empoisonner, celui-là? Attends. On va bientôt manger. On apporte carpas. On apporte comme ça le carpas. C'est ça le manger du paradis qu'il m'a promis. Attends, c'est le début. Attends un peu. Après, l'enfant, il commence à raconter « Manishtana, là, il ne comprend rien. Les Juifs sont sortis d'Égypte, il ne comprend rien. Mais qu'est-ce qu'il veut ?» Il pose des questions une demi-heure, une heure, deux heures. Il dit « Mange, tu m'as dit on mange. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il a une histoire tordue qu'il raconte ?» Une heure, deux heures, trois heures. Enfin, bon, ça va. Encore 5 minutes, on va manger. On se lave les mains, très bien. Ils apportent des matzot épais, durs. Le pauvre, il avait 3/4 des sons, on sont déjà tombés. Il n'a jamais eu de payer son dentiste. Il dit, vas-y, maintenant, il faut manger ça. Et commence à manger, le reste des dents, il se casse, le sang, il coule. Qu'est-ce qu'il me donne? Mais je ne peux plus, système. Alors, qu'est-ce qu'on mange déjà? Je ne peux pas avaler ça, c'est quoi ça? Il dit, maintenant, encore un petit salade, il faut manger. C'est un salade qui a un bon goût, un peu amer. Il a donné comme ça, vous savez l'ashkenazim, comment il en a mangé le truc, ça brûle comme le feu. Donc c'est un bon morceau, il mange ça. Il commence à tousser. Il dit, mange, il faut avaler. Il commence à avaler. Il croit, il s'étouffe. Il s'en fout, il m'empoisonne. Il vomit tout et il se sauve. Une fois qu'il est sorti, madame apporte les poissons et la viande et le salat et tout, les ma'achalim, des bonnes choses. Il faut aller jusqu'au bout, Chacham de la Manishta. Il ne faut pas quitter la... Maintenant, ça arrive, le manger. Le pauvre, il a subi la souffrance de tout le monde. Et à la fin, il abandonne tout. Malheureusement, comme ça, Bar Minan, que Dieu nous protège, il faut des juifs, que leurs parents, ils étaient juifs, et leurs grands-parents, ils étaient juifs, et leurs arrière-parents, ça fait 3300 ans, on était des juifs. Et maintenant, avant que Mashiach vienne, avant que toute la consolation... va atteindre le peuple juif. Il y en a qui veulent quitter le bateau. Ah, et quel dommage. Il y en a qui ont quitté peut-être le bateau il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. Mais dans Parshat Nitzavim, il y a un passouk très énigmatique. Quand le passouk il parle de l'exil du peuple juif, le passouk il dit « Vala kama pechat sedom va amorad motsoim asharafah hashem va po va chamato » Dieu va reprendre le peuple juif, il va le jeter parmi les nations, et les juifs ils vont tourner chez les nations, et partout les goyim ils vont s'occuper de nous de la façon qu'ils s'occupent. Et le passouk dit, « Vaishlichem el eretz acheret kayomazé » jusqu'à Dieu les a jetés dans un autre pays comme aujourd'hui. Après, un passouk dit, « Hanistarot lachem elukenu, vaniglot lanu levanen adolam lasot et kol divrei atorah asot » Hanistarot, les choses cachées, l'Hashem Elokeinu, ça appartient à Dieu. Vahaniglot, les choses dévoilées, là nous, le vaneno adolam, ça nous appartient à nous et à nos enfants, la sot et kol divrei atorah, de mettre en application toutes ces Torah. Qu'est-ce que ce passouk nous enseigne? Il nous enseigne qu'il y a ici deux choses. Il y a Nistarot et il y a Niglot. Il y a une partie cachée de l'histoire. Quelque chose est caché. Il y a une partie niglée, quelque chose dévoilé. La partie niglote, la partie dévoilée, l'anu ulvanenu adolam la asot et kol divrei atorah azot. La partie visible de l'iceberg, c'est pour nous et pour nos enfants pour appliquer la Torah. Les événements qui arrivent au monde, c'est pour nous rappeler que nous sommes des Juifs. C'est à nous de nous appliquer la Torah. Ça, c'est la partie visible. Mais il y a une autre chose. Il y a un istarot. Il y a quelque chose caché. La shemolakeno qui appartient à Dieu. Ce passouk qui veut dire quoi? Alors, il y a beaucoup d'explications. L'explication de Rashi, que chaque juif est responsable pour l'autre juif, mais seulement sur la partie visible. Si je connais l'autre juif, si je vois qu'est-ce qu'il fait, je dois lui dire comment il faut se comporter. mais des choses que je ne sais pas, je ne suis pas responsable, ça c'est l'affaire de Dieu. Il y a un pirouch que Rashi raconte dans Sefer Tehilim. C'est chapitre 87 dans Tehilim. Il y a un chapitre très énigmatique aussi des psukim dans Yeshaya. Le texte, il dit comme ça. Quand viendra la délivrance du peuple juif et Mashiach, il vient. Le texte, il dit, les goyim vont prendre des gens parmi eux. Ils vont dire, toi, tu es juif. Va, tu as aussi le droit de partir en Eretz Israël. Tu as le droit de faire partie de ces gens-là qui méritent la délivrance. Moi, je suis goy comme vous. Et le texte dit, les goyim vont dire, non, tu n'es pas de chez nous, tu es du peuple juif. Rashi dit, ça c'est le sens du pasuk, Anistarot l'Hashem Elokeinu. Il y a des choses cachées qui appartiennent à Dieu. Il y a des juifs cachés. Ils savent même pas qu'ils sont juifs. Ou ils ont une idée lointaine. Et à un moment, ça se dévoile. Je suis juif. Et je fais aussi partie de ce peuple. Des gens qui, ou d'autres, ou eux-mêmes, ou leurs parents, ont caché le phénomène juif. Ils ont caché. Je vais vous raconter deux histoires. Une histoire, je connais la personne lui-même. Je sais chez qui ça a été. Il habite aujourd'hui en Eretz Israël. L'autre personne, je ne le connais pas personnellement. Une histoire, il s'est passé comme ça. Cette histoire, à peu près 40 ans. À peu près 40 ans. Vous savez où c'est la ville Pont de Bonvoisin? Ça vous dit quelque chose? Grenoble, vous connaissez? Chambéry, vous connaissez? Entre Grenoble et Chambéry, une ville Pont de Bonvoisin. Pont de Bonvoisin. Bon. Il y a là-bas une école. Une école, comme dans toutes les villes françaises. Une école. Alors, il y a un garçon, il a 13 ans, il est dans cette école. C'était le mois de mars. Je connais ce garçon, je le connais, il est marié, il a 8 ans. Bon. Alors, c'est le mois de mars. Tous les jours, sa mère lui donne des gâteaux pour le, comment on dit, le goûter. Elle lui fait un gâteau, triangle, avec miel dedans, plié comme ça. Et il va à l'école. Je vois, il y a déjà des personnes qui sourient, c'est déjà, ils ont déjà compris qu'est-ce qui se passe. Il va à l'école. Il est à l'école. Son copain à côté de lui, il voit comment il sort. Dis-moi, tu es juif? Dis-moi, juif? Je te raconte. Tu es juif, hein? Moi, je suis juif, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu dis ça? Il dit, c'est quoi ce gâteau? C'est des gâteaux. Pourquoi tu manges ce gâteau? Parce que ma mère me l'a donné. Tu es juif, toi? Pourquoi tu racontes ça? Maintenant, c'est le mois de mars. C'est les juifs qui mangent ce gâteau au mois de mars. Il croyait que l'autre, il est fou. Alors, il rentre à la maison. Il dit, maman, dis-moi, je suis juif? Nous sommes juifs? Il dit, qu'est-ce que c'est des bêtises comme ça? Pourquoi tu dis ça? Peut-être... Je ne sais pas comment on arrête. Alors, il dit à un garçon qui m'a dit que je suis juif. Mais qu'est-ce que c'est qu'on bêtise? Il a vu ce gâteau, il a dit je suis juif, c'est les juifs qui mangent ce gâteau au mois de mars. N'importe quoi, parle pas de bêtises, arrête de parler de bêtises. Le lendemain, il va à l'école. Alors nous, t'es juif toi, hein? Mais pas du tout, alors pas du tout. Ma mère m'a dit n'importe quoi. Elle s'est énervée que je lui dis qu'on est des juifs. Elle s'est énervée. Elle s'est énervée, pourquoi? Elle est hystérique, ta mère. Elle a dit, c'est vrai que ma mère, elle était hystérique hier. Pourquoi elle était si hystérique? Il retourne à la maison. Il dit, maman, tu étais hier hystérique. Quand je t'ai dit que nous sommes juifs, pourquoi tu étais hystérique? Je t'ai dit, tu parles plus de ça. C'est fini, on parle plus de ça. Maman, tu n'es pas dans un état normal. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Je veux pas qu'on parle. Elle devient blanche, elle truc, elle commence à trembler. Il avait 13 ans, le garçon. Alors il attend une journée, deux journées. Il dit, maman, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Je vois que ça te perturbe. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a avec cette histoire des juifs, avec ce gâteau? Et il est devenu rouge. Il dit, je peux parler. Si tu veux, tu vas chez grand-maman. Moi, je ne te dis pas un mot. Ah bon. Il part chez sa grand-maman. Il dit, dis-moi, grand-maman, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là? Est-ce que nous sommes des juifs et tout? Pourquoi ça te vient de se dire? Il raconte l'histoire. Bon, alors, je vais te raconter la vérité. Nous sommes juifs. On m'a jamais dit ça. Oui. On n'a jamais dit ça. Parce que j'ai passé la Shoah. Et ta mère, elle était tout petite. Et j'ai décidé, on ne veut plus que ça nous arrive. On va cacher qu'on est juif. Et qu'est-ce que c'est cette histoire de gâteau? Ça s'appelle les oreilles de Haman. Vous connaissez les oreilles de Haman? Les oreilles de Haman, on mange Pourim. C'est quoi ça, Pourim? Comment c'est? Mais Kitsour, ce garçon après, il est venu avec Sleban à la Yeshiva. Il s'est mis à étudier. Avec une femme juive et tout. Il habite aujourd'hui en Eretz. Ça, c'est une histoire. Maintenant, je raconte une deuxième histoire. Celle-là, je ne connais pas la personne, mais elle m'a raconté. Il y a, je ne sais pas, 40, 50 ans, je ne sais pas quand était l'histoire. Un jeune homme de 15 ans, il va à Haïfa. Il est devant une boucherie. Il attend qu'à 9h, la boucherie elle ouvre. Non? Il attend quelques minutes, une minute trop tôt, ou l'autre une minute trop tard, je ne sais pas. Arrive un monsieur avec un barbe, il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais j'attends que le magasin ouvre. Pourquoi? Ben, je veux jeter de la viande ici. Alors le monsieur dit, mais cette viande n'est pas cachère, c'est viande de chazir, c'est du cochon. C'est pas cachère, un juif ne peut pas manger ça. Il dit, un juif ne peut pas manger cochon, pourquoi je suis juif, je mange cochon, on peut manger. Il dit, mais non, on n'a pas le droit de manger. Il dit, pourquoi? Mais c'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Le garçon, il part à la maison. Il dit, maman, pourquoi les juifs n'ont pas le droit de manger du cochon? Mais qui te raconte des histoires comme ça? Il dit, je ne sais pas, j'ai attendu, un monsieur, il est passé, il a dit, les juifs, on ne mange pas de cochon. C'est des bêtises, arrête de parler de ces bêtises et tout. Il commence aussi à s'énerver. Ah, la semaine prochaine, chaque semaine il était, la semaine prochaine de nouveau. Et de nouveau il est devant la porte et de nouveau le vieux vient. Et il dit, pourquoi tu attends? Mais ces cochons, on ne mange pas. Il dit, ma mère m'a dit que les juifs ont le droit de manger cochon, c'est des bêtises. C'est des... Il dit, oui, mais c'est marqué dans la Torah. Il dit, c'est quoi la Torah? Il dit, la Torah, c'est ce que Moshe Rabbeinu nous a des livres, que Moshe Rabbeinu a écrit. C'est qui Moshe Rabbeinu? Mais ce qui nous a sorti d'Égypte. Qui est sorti d'Égypte? Mais nous, les Juifs. On est sorti d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte? Il y a 3000 ans. Mais de quoi vous parlez, monsieur? Et tu ne connais pas mon cher Vénus? Non, jamais entendu de ma vie. Voilà. Et il retourne à la maison. Maman, il paraît que nous sommes des Juifs, nous sommes sortis d'Égypte et mon cher Vénus nous donne un Torah à Arsinaï. Arrête ces bêtises, mais qu'est-ce que tu racontes juste? Elle se mit hystérique, à crier, à hurler. Tu ne me parles plus de ni c'est de Moshe Rabbeinu, ni c'est des trucs. Aussi, elle était hystérique. La même histoire. Et le fils aussi l'a compris. Il y a ici quelque chose. Il y a quelque chose. Et la semaine prochaine, il doit partir acheter. Et le vieux, il vient de nouveau. Et il voit le vieux. Et il dit, vous m'avez parlé de Moshe Rabbeinu Sinaï. C'est quoi exactement Sinaï? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Il dit, viens, il partait les jours, il a commencé à raconter. Et le fiston, il arrive à la maison, il dit, maman, je sais maintenant tout. On était 40 années dans le désert, il y a Aaron, il y a Abraham, il y a Jacob. Mais maman, tu connais rien du tout, mais tu es complètement nul. Tu sais même pas qui étaient nos grands-parents. Je sais tout, qu'est-ce que tu as de dire? Je connais moi, je serais Bénard, je connais tout. Ah, tu connais tout. Alors que tu connais la Torah, bien sûr, je la connais. Ah, quand tu sais qu'il ne faut pas manger chazir. Mais bien sûr, je sais. Ah, la fille, si, comprends plus rien. Alors, je comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe, maman? Tu sais ou tu ne sais pas? Alors, Bekitsour, la mère commence en doucement à raconter. Je t'ai raconté. Ton grand-père est un homme très religieux. Et il était dans les camps chez les Allemands. Et moi aussi, j'étais une petite fille, j'étais aussi là-bas. Et ton grand-père, il ne voulait pas manger quelque chose qui avait le moins de choses pas cachées. Tout le monde crevait de faim, mais lui crevait encore plus de faim. Et l'Allemand, il a toujours vu ton grand-père. Il a dit, toi, juif, tu mangeras à la fin la viande que je te donne. Elle a dit, je ne mangerai jamais cette viande. Elle a dit, toi, tu le mangeras. Je vais t'y affamer jusqu'à ce que tu craques. Et ton grand-père n'a pas mangé. Jusqu'il est arrivé le dernier jour, quand les Russes ils sont venus pour libérer Auschwitz, lui, il était encore vivant. Et l'Allemand, il est venu chez ton grand-père. Et il a dit, toi, juif, tu n'as jamais mangé. Je sais pourquoi tu n'as jamais mangé. Parce que tu dis, de toute façon, ils vont me tuer à la fin. De toute façon, on va tous mourir ici. Comme tu croyais que tu vas mourir, donc tu dis, bon, alors autant rester fidèle à ta Torah. Mais nous, les Allemands, on a perdu la guerre. Demain, vous êtes libres. C'est fini, on a raté tout. Nous avons perdu, et les Russes ils vont venir, tu vas être libre. Maintenant, tu peux t'échapper, tu peux rester vivant. Et maintenant, je te demande, tu vas manger la viande. Et si tu ne manges pas, je te tue maintenant. Et là, tu vas rater vraiment ta... Alors, tu manges ou tu ne manges pas? Il dit, je ne mange pas. Et l'Allemand, il a pris le revolver et il a tué ton grand-père. Et moi, j'étais à côté et je me suis dit, pour cette Torah, mon père, il est mort pour rien. Pour rien, il est mort. Il aurait pu manger, il serait vivant. Pour une idée bête, sans utilité, il est mort. Je me suis dit, moi, c'est fini. Elle est montée en Eretz, s'est installée, je ne sais pas, dans un kibbutz. Elle a eu un enfant, cet enfant. Alors, on va chaque semaine, on va manger chazir, pas faire le contraire du papa. Ah, la fissure. Et le fils, il part la semaine prochaine, il rencontre le vieux, il raconte et tout. Il discute. Et le fils, il arrive à la maison, il dit, maman, toi, tu ne veux pas être religieuse, pourquoi? Parce qu'il t'a dit que grand-papa, il est mort pour rien. Oui, il est mort pour rien. Il dit, moi, je ne pense pas qu'il est mort pour rien. Alors, dis-moi, à quoi ça servit? Il dit, ça servit que maintenant, moi, je comprends qu'est-ce qui s'est passé. Grâce à ça, toi, tu as fait comme ça, et moi, j'ai fait comme ça. Et maintenant, ça se dévoile, il n'est pas mort pour rien. Maintenant, je sais que mon grand-père, il était prêt à mourir pour ne pas manger. Ça veut dire la conviction chez lui que ce livre de Moshe est un vrai livre. Il n'avait aucun doute dessus. Il n'avait pas le moindre doute. Et l'Allemand ne pouvait pas lui faire peur. Il ne pouvait pas lui faire changer d'avis. Ce livre, nous avons reçu au Mont Sinaï. Et nous sommes prêts à mourir. Comme ça, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, jusqu'à Moshe Rabbeinu, nous savons qu'on ne nous a pas menti, et il était prêt à mourir. Moi, je sais maintenant avec quelle conviction il avait, quelle conviction avait mon grand-père. Et j'ai demandé, et j'ai parlé avec ceux, et je fais le lien avec toute l'histoire du peuple juif. Ce livre est vrai, il est archivré, il n'est pas falsifié, il n'est pas monté, il n'est pas fabriqué comme les autres religions. Bon, la fin de l'histoire, vous pouvez vous imaginer. La mère aussi, elle s'amadouait. Elle a pu trouver la paix avec son père et avec toute l'histoire. Ça, c'est l'histoire de la fin. Tout il dépend de la fin. La fin, ça, c'est les Hanistarot, l'Hachem Elokeinu, les choses cachées. On n'a aucune idée combien des Juifs sont encore cachés. Pas parmi ceux qui sont à la synagogue, parmi... Nous n'avons aucune idée. Nous n'avons aucune idée. En France, combien des Juifs, on ne sait pas qu'ils sont Juifs. Eux, ils ont quelque part quelque chose. Et Rachid dit, ça c'est Hanistarot, la chaîne auquel Dieu va dévoiler. Et les gens, ils vont retrouver à un moment, vont retrouver le fil, ils vont retrouver leur origine, ils vont retrouver leur histoire. Ils vont pouvoir reattacher les fils qui étaient à un moment un peu coupés, moitié ou trois quarts coupés. Ils vont rebrancher les fils et le flux de la Kedusha et de la Emouna et de la piété du peuple juif va continuer à alimenter cette génération. C'est ça que la Torah nous raconte. À la fin du temps, vous allez comprendre et vous allez revenir chez moi. Et maintenant, il y a des événements au Proche-Orient qui sont bouleversants. On n'est peut-être qu'au début de ces bouleversements ou au milieu. On ne sait pas encore quels seront les bouleversements. Moi, je me demande, il y a des millions de gens qui sont partis du Syrie. Les gens, ils disent, c'est bizarre, des millions de gens qui partent. Mais on regarde un peu dans le Chumash. Quand Akadosh Baruch Hu a promis Abraham Avinu, il a promis l'Eretz Israël depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate, qui appartient aux Juifs. Mais les archives occupées par d'autres personnes. Mais Akadosh Baruch Hu dit, un jour je vais donner de ces terres, c'est pour vous, pas pour d'autres. Il faut bien qu'un jour ils prennent le bâton de pèlerin. Mais Akadosh Baruch Hu, il est génial. Ne vous inquiétez pas pour lui, ne lui dites pas quoi faire. Il ne faut pas lui dire quoi faire, laissez-le au gré. Il fait les choses bien. Il ne faut surtout pas jamais donner des conseils à Hachem. Il y a beaucoup de gens qui veulent donner des conseils à Dieu. Il ne faut pas lui donner des conseils. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Il fait les choses beaucoup plus profondes. Son projet, il est beaucoup plus grand que tous les projets de tous les gens. Il embrouille des gens, il tue un dingue, et ils font des bêtises sur des bêtises. Quand il faut dégager le plancher, il dégage le plancher. Et ceux qui ne voulaient pas les juifs, il a ce qu'il mérite.
Est-ce que l'être humain peut comprendre tous ces
commencements
qui sont chez Hachem?
Nous pouvons de loin regarder un petit peu voir les merveilles d'Hachem, la main d'Hachem. Comment Hachem y retourne l'histoire. Comment il retourne. Les Juifs doivent rentrer dans ces terres et des autres ils doivent partir. Et le mieux vaut que nous, on ne sera pas obligé de se salir les mains. Que des autres font le boulot pour nous. Ça sera le mieux. Tout est dépend d'après notre mérite. Si on a des bons mérites, à quel point il conduit le monde. Ne lui donnons pas des conseils. Anistarot, l'Hachem et le Kenou, les chemins cachés appartiennent à Dieu. Il fait une politique plus intelligente que Poutine et que Obama. Il est plus intelligent que Dr. Hollande et tout le monde. Laisse Hachem faire. Anistarot, l'Hachem et le Kenou. Vahaniglot, ce que nous pouvons comprendre, là, nous le vanenu, adolam, la asot et kol divrei Torah azot. La Torah veut que nous et nos enfants, que nous appliquons cette Torah, appliquer cette Torah. Et lui, il fait déjà la politique du monde entier pour que tout y finira de façon merveilleuse pour le peuple juif. Tout est bien, qui finit bien, Bezrat Hashem.